En introduction, j'ai rappelé que le Saint-Esprit avait deux missions, consoler et enseigner ceux qui sont en Jésus-Christ et convaincre le monde que Dieu est jugement et justice. Et c'est un peu pour le partage de ce matin, dans cette deuxième mission, que je voudrais un peu aller creuser un peu plus. Et je vous propose de lire l'Évangile selon Jean, Jean 16, nous commencerons au verset 5. Maintenant je m'en vais, c'est Jésus qui parle, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant ce texte qui a traversé les siècles. 2000 ans, et ils sont là pour encore apprécier ta parole qui a été dite, mais qui a traversé les siècles. Oh Seigneur, que si elle a traversé les siècles, qu'elle nous transperce le cœur, pour que nous puissions être à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ce passage fait partie d'un long discours, après que Jésus ait lavé les pieds de ses disciples et qu'il ait démasqué Judas, qui allait le livrer. Discours avec des recommandations. Jésus va partir et il donne de certaines recommandations à ses disciples. Et ce discours débute chapitre 13, vous pouvez lire chez vous, mais ce serait trop long à lire ici, bien que vous pourrez passer beaucoup de temps ensemble. Mais je vous propose de lire à partir du chapitre 13, et il se termine par la prière dite sacerdotale au chapitre 17. Et puis Jésus est arrêté et il va mourir. Et dans ce discours, il y a à plusieurs reprises, Jésus a abordé le sujet du Saint-Esprit, qui est un peu notre sujet aujourd'hui. Je vous relis Jean 14, 16, 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous. Un peu plus loin, au chapitre 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et encore un peu plus loin, chapitre 15, verset 26, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. L'Esprit viendra après le départ de Jésus, après la montée au ciel. Jésus leur annonce son départ. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Jésus retourne où il vient. Mais, comme à son habitude, Jésus, il part pas sans rien faire. Il a tout prévu. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit-il. Je viendrai à vous. Mais aussi, les disciples, aussi comme à leur habitude, ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas tout comprendre. Vous ne demandez même pas où je vais. Je vous dis que je m'en vais, mais vous ne savez pas où. Mais la tristesse a quand même envahi leur cœur. Ils sont même plus aptes à discerner les paroles de Jésus. Ils pensent que c'est une blague. Je crois qu'encore aujourd'hui, on pense que Jésus est une blague. Jésus n'est pas pris au sérieux. Alors il insiste. Jésus insiste. Je vous dis la vérité. Et c'est même un avantage que je m'en aille. Sinon, le Consolateur ne viendra pas. Je ne suis pas à votre place. Mais Jésus, tu es là. J'aurais essayé de le retenir. Tu es là. On peut te toucher. On peut voir. On peut avoir des réponses en direct. On te pose des questions. Tu peux répondre. Il était là, mais ce n'était pas le but. Ce n'était pas le but réellement de rester physiquement avec nous. Vous savez que physiquement, on est limité. Et pour que l'Évangile gagne le plus grand monde possible, il n'y a qu'une chose à faire. Envoyer le Saint-Esprit. Lui peut se répandre partout. Il peut aller partout. L'Esprit est déjà à la création, comme on a dit dans l'intro. Il est là à l'Apocalypse. Il est là d'éternité en éternité. Il a rempli des personnes de sa présence. Et il doit encore venir. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que cela veut dire qu'il doit encore venir ? Il est là pourtant. Je vais vous prendre un exemple concret, ce sera plus facile à retenir. Jean 3, les 5 premiers versets, un exemple d'un homme qui va s'entretenir avec Jésus. Jean 3, 1, 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as faits si Dieu n'est pas avec lui. » Et Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau en esprit. » Jésus, en présence physique, a conduit 12 disciples. Il était parfois submergé par la foule. Mais pour le Saint-Esprit, il n'y a pas de souci. Tout comme le vent, il souffle où il veut. Il est en mesure de toucher davantage de monde. Mais il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau, un peu comme la chenille qui, pendant un certain temps, se déplace sur le sol, au ras de terre, ne voyant que quelques centimètres de nature. Et puis, un jour, elle s'endort, passe par une période de mort à elle-même, et renaît avec de magnifiques couleurs, qui lui donnent la possibilité de voir le monde avec de superbes ailes. Il voit le monde de plus haut, de plus grand, de plus beau. Le papillon vit en nouveauté de vie. Ce n'est pas qu'une certaine marque de boisson énergétique qui donne des ailes, non. Le Saint-Esprit donne des ailes. Et il nous fait voir comme Dieu voit. Ça, c'est le but. Voir comme Dieu voit. Si la chenille ne voit que le noir de la terre, la base des plantes et la feuille de salade qu'elle mange, le papillon, lui, a la possibilité d'observer de plus beau la beauté inexprimable de la création. Moi, je suis toujours étonné de ces émissions Jardin extraordinaire. De temps en temps, je voudrais être un aigle pour aller voir là-haut toute cette merveille. Pour nous, l'homme pécheur ne voit que ce qui l'entoure. La morosité, la désolation, la faim, la guerre, la maladie, la famine, etc. L'homme régénéré par le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit a fait sa demeure, qu'il a accepté, il passe, il voit comme au travers du voile. Quand une expression de l'Épître aux Hébreux, oh, certainement, on voit la même chose, on voit les horreurs de la guerre, on voit la destruction par le péché. Mais on a aussi la possibilité de voir comme Dieu voit. Voir quelque chose qu'on ne connaît pas. L'éternité. L'éternité. Il nous est dit dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. » La pensée de l'éternité. Combien de tout temps on a cherché la vie après la mort et combien on n'a pas trouvé. Combien ont pensé qu'il y avait quelque chose après la mort, mais combien ont pensé à se préparer à ce départ. La Bible nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Oh, j'y crois pas. Peut-être. Mais Dieu est là. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et cette semaine, je lisais un petit texte sur Facebook. Ouais, ça m'arrive d'aller sur Facebook, comme tout le monde. Le monde refuse Dieu dans ses écoles, dans les familles, dans la politique, dans la vie, tout simplement. Et il se tonne que tout aille mal. C'est plus facile de lui mettre tout sur le dos en l'accusant de ne rien faire. On met tout sur le dos de Dieu. Mais revenons quand même à la mission du Saint-Esprit pour le monde. C'est quand même un peu là qu'on est. Et voilà ce que nous avons lu. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Trois choses. Trois choses. Le péché, la justice, le jugement. Le Saint-Esprit convaincra. Le verbe grec pour convaincre a deux sens. A au moins deux sens, parce que parfois en grec il y a plusieurs sens, mais ici j'en ai retenu deux. C'est premièrement condamner, réfuter, généralement avec une suggestion de honte pour la personne accusée. C'est amener à une conviction, amener à la lumière. Et puis, deuxième définition, c'est reprendre. Blâmer sévèrement, réprimander, réprouver, montrer à quelqu'un sa faute, exiger une explication. Si on prend l'exemple d'un juge, il essaiera par ses propos de convaincre la personne de ce qu'elle a fait, de lui expliquer la gravité de ses faits et gestes, lui simplement lui expliquer dans un premier temps. Le Saint-Esprit agira de même, de la même manière pour ceux qui sont dans le monde. Les convaincre de leurs mauvaises actions pour les amener à la lumière. En agissant de la sorte, Jésus montre que Dieu est créateur. Et par l'intermédiaire du Saint-Esprit, qu'il s'occupe de sa création et n'a pas laissé à l'abandon. Dieu n'a pas fait la terre et puis je ne m'en occupe plus. Et je prendrai les mots d'un commentateur. Nous pourrions faire une paraphrase de ce verset. Le Saint-Esprit attirera l'attention du monde, non croyant, sur les véritables sujets clés que sont le péché, l'injustice et le jugement, de façon qu'il ne soit plus possible d'ignorer ou de nier ces questions. On ne peut pas ignorer que Dieu est justice et jugement. Mais comment s'y prend-il? Comment le Saint-Esprit convainc-il? On a déjà vu que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Et vous avez aussi entendu ce slogan « Un esprit saint dans un corps saint ». L'homme est conscient. Oui, l'homme est conscient qu'il n'est pas que physique, il est aussi spirituel. Et autant il faut soigner le corps qu'il faut soigner l'esprit. Et depuis quelques années, le nombre de psys, à mon avis, a dépassé le nombre de médecins généralistes. Il faut soulager le conscient, travailler sur le subconscient. Et toutes les méthodes sont bonnes, apparemment, ou soi-disant. Alors que Dieu a donné le remède, le Saint-Esprit, appelé aussi consolateur. Ce n'est pas un juge seulement, c'est un consolateur. L'homme est doté d'une conscience. On en est conscient, de cette conscience. C'est bien que si on vole un truc dans un magasin, on le sait. Ou alors on n'a pas de conscience, ou on n'en a plus. C'est quand même ce qui nous différencie d'un animal. Nous avons une conscience. Hélas, avec Adam et Ève, le péché a sali cette conscience, tout comme notre corps physique est devenu mortel. Il y en a qui disent, ouais, moi si j'étais à la place d'Adam, t'aurais fait la même chose. Ben, c'est une illusion. Si à notre naissance, notre mort est hélas programmé, notre esprit retournera à Dieu. Ça, c'est la part de Dieu. Mais dans quel état? Tel un papillon, régénéré parce que je suis devenu une nouvelle créature, que j'ai accepté Christ, ou une chenille, toujours restée terre à terre, en refusant le Fils de Dieu, et surtout la croix. Comment vais-je entrer dans le royaume de Dieu? Ou pas. Alors le Saint-Esprit ne cesse d'essayer, de convaincre. Il y a du travail, hein. Je dis souvent, il y a deux versets qui donnent le jardin d'Éden, les deux premiers, et les deux derniers, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle terre. Et entre les deux, Dieu parle. Il parle. On l'écoute pas. Le Saint-Esprit parle et il va essayer de convaincre. Il va essayer de convaincre du péché. En ce qui concerne le péché, parce que il ne croit pas en moi. C'est clair. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit l'Épître aux Romains. Personne n'est juste devant Dieu. Personne. Tous ont péché. Et on peut sauver quelqu'un qui n'est pas conscient de son péché. On n'est pas apte à essayer de sauver un malade s'il n'a pas envie d'être guéri. Ou essayer de lui mettre les médicaments s'il ne veut pas. S'il ne veut pas, il faut être conscient de l'état qu'on est. L'homme, s'il ne reconnaît pas qu'il est perdu et que ce monde est mauvais, ne peut voir l'œuvre de Jésus-Christ. Et si quelqu'un apprend que sa nourriture est mauvaise, il essaiera autre chose. Mais il faut en être conscient. Il faut être conscient que la nourriture est mauvaise. Il en est de même pour le péché. Si personne ne devient convaincu qu'elle est détestable, elle ne pourra jamais trouver la solution. C'est de cette conviction que le Saint-Esprit veut enseigner le monde. Être convaincu qu'il n'y a pas d'autre solution. Deuxièmement, la justice. La justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Comment comprendre ce verset ? Vous ne me verrez plus. Si l'on considère que Jésus est 100% justice, le fait de ne plus le voir, de ne plus l'avoir avec nous, c'est perdre notre repère absolu. Un juge humain ne sera jamais juste à la perfection. Jésus l'était. Jésus était meilleur que tous. Alors partir, on perd quelque chose. Convaincu de péché, il faut être aussi convaincu que Jésus est justice. Justice suprême, sans quoi on essaiera de chercher quelque chose pour s'en sortir. Par nos propres moyens, on fera telle et telle chose, on mettra tel et tel bazar, on fera peut-être des prières sans fin. Mais Jésus est la solution. Et le fait que Jésus retrouve sa place de gloire auprès du Père prouve qu'il a été justice parfaite sur la terre. Sa résurrection et son ascension montrent au monde que le Père a approuvé qu'il était juste. Et troisièmement, le Saint-Esprit convaincra de jugement. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Convaincre de jugement le monde. Dans un premier temps, le salut était pour le peuple de Dieu. Jésus dira, je suis venu pour mon peuple. Mais à la Pentecôte, le salut est devenu universel. Il est devenu pour tout le monde. Et la notion de monde dans l'évangile de Jean est utilisée surtout pour le monde mauvais, corrompu par Satan. Et c'est donc avec la prise de conscience du péché que nous pouvons avoir connaissance de ce jugement. Si vous êtes parfait, pas besoin d'aller au tribunal, hein. Il n'y a pas de jugement. Jugement négatif pour ceux qui n'auront pas reconnu Jésus pour justice et vie éternelle pour ceux qui l'auront accepté. Pour la conviction du jugement de Dieu, ça doit être encouragé sur le fait que le péché ne durera pas toujours. Dans Genèse 3:15, à la croix, Jésus accomplit ça. Il nous a dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu dit ça à Adam. En Jésus-Christ, cette promesse a été faite. À la croix, il a eu la mort du Sauveur. Mais Satan a été précipité et détrôné. C'est ce que Jésus avait déjà annoncé. À la croix, il y a eu quelque chose. Jésus dira maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Jésus meurt à la croix. Nous devons savoir que Satan est déjà jugé. Cela ne signifie pas qu'il a déjà purgé sa peine. Il n'est pas encore jeté dans les temps de feu, ça viendra, mais il est déjà jugé. Ici, nous devons comprendre comment le Seigneur œuvre. Le Seigneur use de patience dans ce monde afin de gagner le plus grand monde. Il attend pour en avoir le plus possible. Il laisse Satan, hélas, s'activer encore dans ce monde. Il a peut-être des raisons pour en arriver là. Plus Satan va s'activer, plus le Seigneur sera glorifié. Parce que la défaite de Satan sera encore plus grande. Ceci dit, l'Esprit nous convainc que Satan est déjà jugé et qu'il y a un jugement dernier. De ces trois choses, et je conclue par ça, dont le Saint-Esprit s'occupe, il doit en ressortir la solution de Dieu. Je vous ai donné l'exemple de Nicodème, à qui Jésus dit qu'il doit naître deux fois, physiquement et spirituellement. Et dans son entretien, un peu plus loin, voilà ce que Jésus dira. Il lui donnera, pour moi, le plus beau verset de la Bible. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, encore aujourd'hui, laissons-nous convaincre. Convaincre de péché, de justice, de jugement, mais dans la perspective que Jésus est la solution unique, gratuite, donnée par Dieu et uniquement par amour. Amen. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous souvenir par ta parole de ce qui s'est passé, mais nous pouvons nous souvenir dans nos cœurs, par ton esprit qui nous imprègne que tu es la solution. En Jésus-Christ, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Certes, le monde continue, certes, Satan continue son œuvre, mais nous savons que tu es victorieux. Encore une fois, qu'à toi revienne toute la gloire. Amen.